9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, ravi de vous retrouver. Bon matin à tous, bon matin Karima.
Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices.
Karima Shadibaou, psychothérapeute. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas dit bon matin.
Oui, ça fait longtemps.
C'est ça. On arrive à la fin du mois de Ramadan.
Voilà,
on va
ça.
Retrouver nos habitudes.
De dire bon Ramadan et bonsoir.
Voilà, exactement. Donc là, maintenant, c'est bon matin à
bon
tous.
Bon matin.
Nous avons invité aujourd'hui Saverio Tomasella. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Ça merci. Faisait plaisir de vous voir. On vous attendait depuis longtemps.
Ah, oui. Oui, absolument.
Docteur en psychologie, psychanalyste, spécialiste de l'hypersensibilité. Alors, on parle de hypersensibilité, mais il y a beaucoup d'autres mots pour définir cette sensibilité aujourd'hui. Hein.
Oui, on essaye d'ailleurs de développer plutôt le mot haute sensibilité comme les anglo-saxons pour être un peu tous au diapason internationalement. Et puis parce que ça fait moins étiquette et ça désigne plus cette sensibilité qui est plus élevée que la moyenne, mais qui est tout de même une sensibilité.
Haute sensibilité. Ultra sensibilité, aussi, ça marche aussi.
Ultra sensibilité, ça marche parce qu'ultra, c'est valorisant.
Oui. Mais on voit quand même depuis quelques années que ce terme de hypersensible, c'est quand même beaucoup développé. Hein.
C'est vrai.
On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles ou de gens qui se réclament de l'hypersensibilité.
Alors, qui se reconnaissent parfois, qui s'en réclament aussi, parce qu'en fait, c'est une façon de parler de la sensibilité, des émotions et de tous nos vécus, finalement.
Et vous êtes là pour nous parler ce matin de « Plus jamais harceler, en finir avec la maltraitance entre adolescents » chez Vuibert. Et là, vous introduisez la question des émotions dans la maltraitance, qui n'est pas si courant d'ailleurs. Et on ne peut pas déconnecter cette question du harcèlement de la question des émotions, parce que vous dites que les victimes et les, entre guillemets, hein, harceleurs souffrent d'un dérèglement des émotions.
Oui, et c'est très important parce que dans tous les livres que j'ai lus, les livres francophones que j'ai lus, on ne parle pas des émotions. Alors que ce sont, dans ces situations de violence entre pairs, alors que ce sont des situations où, au contraire, il y a énormément d'émotions et où l'émotion fondamentale qui est la peur des deux côtés, elle n'est pas exprimée. Et que probablement beaucoup de ces difficultés à être en relation ensemble viennent du fait de ne pas pouvoir exprimer ces émotions difficiles comme la peur, la honte, la colère. Ou d'autres émotions de ce genre-là.
Mais la honte, on en parle surtout du côté de celui qui est harcelé, de la victime.
Certes, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la victime a tant de mal à en parler à ses parents, par exemple, ou à ses professeurs. Mais je crois que les personnes qui sont du côté de la violence, enfin qui sont instigatrices de la violence, elles ont honte aussi de ce qu'elles font. Peut-être moins consciemment que les personnes qui les subissent, mais je crois qu'il y a de la honte un peu partout dans cette violence-là. Comme une espèce de dysfonctionnement, finalement, du groupe ou de la relation.
De la relation.
Oui, entre eux. Ce qu'on n'arrive pas à se dire, ce qu'on n'arrive pas à exprimer, bon, on va le faire passer peut-être par des actes violents ou des actes destructeurs, que ce soit des mots qui sont durs ou vraiment des gestes.
Alors, votre livre est un livre de solutions, hein, et de solutions qui fonctionnent, puisque vous les avez expérimentées, et c'est pour ça que ça change. Mais sur la question de la peur, je ne l'avais pas beaucoup lu avant, sur cette expression de la peur des deux côtés de l'interaction qui se joue entre la victime et de celui qui la harcèle.
Et il y a la peur dans le groupe, parce qu'on s'est rendu compte que les phénomènes d'intimidation sont des phénomènes de groupe, même s'il y a un meneur ou une meneuse, et que dans le groupe, il y a beaucoup de peur, la peur d'être rejeté, et aussi la peur d'être différent, surtout pendant la préadolescence et l'adolescence, où les questions d'identité, de qui je suis, comment je suis perçu, sont très, très vives.
Parce que sans groupe, il n'y a pas ce phénomène. C'est ça que vous expliquez.
Non.
Sans témoin, sans public,
il n'y a pas ce phénomène. D'autant qu'on a pu mettre en évidence la question de la popularité. Et les meneurs de ces groupes-là, ce sont généralement des personnages populaires, filles ou garçons, qui ont envie de garder cette popularité. Et ceux qui sont harcelés le plus souvent, c'est qu'ils ne sont pas assez populaires.
Karima.
Oui, et ce qui est intéressant aussi, quand on parle de la peur, c'est vrai qu'on le dans les ouvrages qu'on a pu lire là-dessus, qu'on peut lire, on ne trouve pas justement cette dimension émotionnelle. On la retrouve Pourquoi ? Parce que moi, en tout cas, ce qui m'a plu dans le livre, c'est parce que c'est vraiment relié au terrain. Mmh. C'est les témoignages des enfants, les témoignages de ceux qui ont subi du harcèlement ou qui sont aussi harceleurs, parce que intégrer aussi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, intégrer aussi le harceleur parce qu'il est, il est victime lui aussi, hein, finalement. Mmh. Hein, victime de ce qu'il vit, ce qu'il peut vivre à la maison ou de ce qu'il a vécu avant, de ses différentes expériences. Et que de pouvoir parler de cette peur et de pouvoir la nommer, de pouvoir de s'en occuper, la verbaliser et mettre un dispositif tout autour, bah, d'accompagner tout le monde. Et finalement, personne ne sera lésé.
Même si aujourd'hui, il y a très peu de témoignages de harceleurs et de témoins. Ce que vous déplorez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de témoignages de victimes, mais les autres, on ne les entend pas, on ne les écoute pas.
Alors peut-être qu'on peut lancer un appel, là maintenant, de témoignages de harceleurs ou de harceleuses et de témoins, on va dire peut-être même plutôt que de témoignages de harceleuses ou de harceleurs, de personnes qui ont participé à ces violences, qui en ont été, comme le dit Karima, elles-mêmes aussi des victimes. Et certaines filles, qui sont plus courageuses d'ailleurs, ont témoigné pour dire que, ayant été harcelées, soit en famille, en cité, ou au collège ou au lycée, elles se sont dit, ben, plutôt que d'être la victime, je vais être, moi, passer du côté des plus forts ou des plus fortes. C'est comme une protection ultime, de se dire, ben, j'ai pas envie que ça recommence contre moi, donc je vais le faire moi aussi.
Il vaut mieux que ce soit, que je prenne les devants, et que plutôt que de subir la situation et de me retrouver dans cette situation où j'étais pas bien, où j'avais honte, entre j'arrive pas à me faire à faire ma place, le sentiment d'appartenance, d'être avec, je suis pas avec le groupe, je suis rejetée, humiliée, vexée, et que ça se répète, il vaut mieux que ça se passe pas sur moi.
Voilà.
Ce que j'entends dans les témoignages, c'est tant que c'est pas sur moi. Voilà, mais je reste quand même complice. Et souvent dans les situations que j'ai pu sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est de dire oui, mais tu es quand même complice, parce que tu regardes, tu observes et tu vois la souffrance, tu vois que l'autre il vit quelque chose de pas normal et que finalement tu ne fais rien.
Oui, est-ce que c'est de être peureux ou
Allez-y.
Je pense qu'il y a la peur
d'être, de courage
ou d'être rejeté du groupe, ou que si je me détache du noyau fort du groupe, encore une fois, ce soit à moi que ça arrive. Et puis il y a la question de la sidération. Alors ça, c'est très important, parce que ça a été très peu dit dans les livres.
C'est comme les lapins. La sidération, c'est un lapin donc qui se retrouve avec les phares d'une voiture qui lui arrive dans les yeux
et qui est immobilisé. Or nous sommes des mammifères, et au niveau de notre système nerveux autonome, quand nous sommes traumatisés, choqués, il y a un moment de sidération qui peut d'ailleurs s'installer, et on est immobilisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas comment se défendre. C'est ce qui arrive aux personnes qui sont victimes d'intimidation et de brimades, mais aussi aux témoins.
Je dis que ça se passe au niveau du nerf vague dans le dos.
Exactement.
Alors ça, je l'ai découvert, ça.
Alors en neurobiologie,
c'est incroyable.
Oui, en neurobiologie, en fait, on a une histoire très longue qui commence avec les reptiles, et pour nous, humains, c'est les tortues. Et donc, on a des réflexes archaïques qui sont très puissants, et quand on est en danger de mort, on s'immobilise. On n'a plus la carapace pour rentrer notre tête et nos pattes, mais on s'immobilise. Et ça se passe au niveau d'un réseau nerveux qui est dans le dos. En revanche, si on arrive à réactiver ce réseau nerveux du côté ventral, du côté de la face, alors on va pouvoir de nouveau être confiant, tranquille, en relation. Et tout l'enjeu dans ces thérapies du harcèlement, comme dans les thérapies du traumatisme en général, c'est de pouvoir sortir de cette immobilisation, qu'on soit instigateur de violence ou victime des violences, en fait, c'est pareil. Et qu'on puisse retrouver cette capacité à communiquer avec l'autre, à se lier à l'autre, et donc à le comprendre, être en empathie avec l'autre.
C'est important ce que vous dites, parce que souvent, le reproche qu'on peut faire à ceux qui sont victimes de harcèlement, c'est « mais pourquoi tu ne l'as pas dit ? Pourquoi tu n'as pas réagi ? Tu t'es laissé faire ?» Alors que c'est non, ce que vous expliquez, c'est cette sidération qui font que les gens ne peuvent rien faire.
On ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment réagir, et du coup, c'est comme une incitation indirecte pour que ça continue, alors qu'en fait, on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Alors, il y a trois causes qui font que les préadolescents et les adolescents ne parlent pas. La première, c'est qu'ils veulent que ça reste entre eux. Donc, ils n'en parlent pas aux adultes. La deuxième, c'est la honte, voire la peur d'avoir des représailles. Et la troisième, c'est la sidération. C'est-à-dire que même au moment où ils aimeraient en parler, ils sont dans un état de choc et ils n'arrivent pas à en parler à leurs parents, à leurs grands frères ou leurs grandes sœurs ou à un prof.
Oui. Et je voulais poser la question à Saverio. Est-ce que ça contribue, en fait, est-ce que le fait de ne pas en parler, d'être dans cette sidération, le harceleur, celui, le ou la harceleuse, vont choisir quand même un certain profil? Parce que la plupart du temps, le profil de celui qui est harcelé, on le voit, il a une faible estime de soi la plupart du temps, donc pas confiance en lui, il a du mal en fait d'être en présence, c'est-à-dire d'être d'habiter son corps, d'incarner, d'être là.
Mais il est différent.
Et donc il est différent.
Il est souvent différent quand même.
Oui, c'est différent physiologiquement, donc le physique, mais les cheveux, la couleur de la peau.
C'est quelqu'un qui est petit, gros, avec des lunettes, roux.
Oui, moi j'étais harcelée quand j'étais petite aussi. Mais bon,
il faut qu'on en parle.
Non, on va pas en parler, Philippe. C'est bon là-dessus.
Non, mais souvent différent. Oui, voilà, il a une différence.
Différent parce que tu parles pas la langue, c'est ou ça. Soit tu es, t'as pas les mêmes codes, c'est pas la même culture.
Trop intelligent aussi souvent.
Ou trop intelligent, ou exactement.
Trop sensible. Trop sensible.
Voilà, ou trop ceci ou trop cela.
Pas le même milieu social.
Aussi.
Pas la même religion. Toutes sortes de choses. Ce sont parfois ces petites différences. Ça peut être des grandes différences, mais ces petites différences sur lesquelles le groupe va se stigmatiser, le groupe va se focaliser sur ces différences pour les stigmatiser et s'acharner. En fait, il y a comme une espèce d'acharnement pulsionnel et inconscient. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a beaucoup de travaux qui disent que, en tout cas francophones, parce que les anglophones et scandinaves sont différents, qui disent que c'est intentionnel. Ben, je ne suis pas sûr que ce soit si intentionnel que ça. Il y a une partie défensive dans le fait de s'attaquer à quelqu'un qui est différent et qui nous fait peur, peut-être inconsciemment, mais qui nous dérange.
D'accord.
Et moi, je pense que la solution, elle vient du fait de mettre tout le monde à l'aise avec les différences et à l'aise avec ses peurs, avec ses émotions difficiles, avec le groupe, avec l'incertitude du groupe et avec les conflits. Et que c'est ça le règlement du harcèlement.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser celui qui est différent nous envahir, en fait. Ou nous changer,
ou nous fragiliser, ou même on ne sait pas quoi. Il y a cette espèce de mystère dans l'angoisse, on ne sait pas ce qui nous angoisse. Mais le groupe est là, on fait corps, et dans ce corps, on peut devenir violent contre quelqu'un de différent, ou qu'on imagine différent. Parfois, il n'est même pas différent.
Là, c'est la meute, c'est même plus la...
Voilà, ce sont des phénomènes de meute.
De meute.
De bande et de meute, oui.
Saverio Tomasella est notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents chez Viber. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on parle du harcèlement entre pairs. C'est comme ça que vous appelez le harcèlement des ados ou le harcèlement scolaire. D'ailleurs, notre invité aujourd'hui, c'est Saverio Tomasella, qui est docteur en psychologie, psychanalyste et spécialiste de l'hypersensibilité. Alors voilà, harcèlement entre pairs.
Oui, il y a 6% du harcèlement des jeunes qui est vécu par des plus âgés ou des adultes. Et donc 94% des violences subies par les préadolescents et les adolescents sont entre eux. C'est pour ça qu'on dit entre pairs. Mmh. Et souvent, c'est tellement entre pairs que ça se passe dans une même classe, dans un même club, vraiment à l'intérieur du groupe.
Oui, et alors dans votre livre, vous listez les lieux qui sont propices au harcèlement, comme les vestiaires,
exactement, les trajets. Exactement, hein. Voilà, les abords du collège ou du lycée, et les vestiaires qui sont curieusement très peu surveillés et où se passent parfois les pires choses pour les enfants et les jeunes qui sont violentés.
On est d'accord sur la définition de harcèlement aujourd'hui ?
Oui, on est d'accord sur le fait que c'est un harassement, c'est-à-dire un acharnement. Mm-hmm. Les anglo-saxons parlent de harassement, mais c'est un mot français. Donc de l'acharnement, le fait de piquer, d'user, c'est une guérilla. C'est un terme stratégique à l'origine. C'est-à-dire qu'on fait tout pour affaiblir l'autre.
C'est un terme de guerre. Ouais.
C'est un terme de guerre, oui. Ouais. Donc il y a une espèce d'acharnement pour affaiblir l'autre et l'épuiser, quoi.
Le neutraliser.
Voire le pousser au pire, puisque malheureusement, exactement. Il y a
beaucoup de suicides.
Beaucoup de suicides dans les cas de harcèlement.
Oui. Alors, vous donnez une batterie de chiffres. Qu'est-ce qui est important de retenir de ces chiffres ?
Qu'un quart des préadolescents et des adolescents sont harcelés, c'est-à-dire un enfant sur quatre, c'est énorme. Oui. Que seulement 10% vont en parler. Souvent, ils en parlent qu'un ou deux ans après, voire des années plus tard. Que les filles et les garçons sont autant concernés du point de vue de l'instigation des violences, mais il y a tout de même encore plus de filles harcelées que de garçons harcelés. Donc il y a encore du sexisme, malheureusement, là encore, que ce qui se développe le plus, c'est le harcèlement maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Oui. Donc le cyberharcèlement.
Cyberharcèlement, mmh. et qu'on est dans des violences qui se sont intensifiées.
Mmh. Alors, vous, c'est, votre livre, vous êtes parti d'une page blanche, hein, donc vous avez voulu venir avec des propositions qui sont nouvelles. Quelles sont les idées reçues que vous voulez faire sauter quand on s'intéresse à la question du harcèlement ?
Il n'y a pas de profil type. Ça, c'est une première, un premier stéréotype, une première idée reçue. Il n'y a pas de profil type, ni du côté de la victime, ni du côté des intimidateurs et des intimidatrices. Mmh. Tout le monde peut être pris dans ce jeu de violence d'un côté ou de l'autre, même si on a parlé des différences tout à l'heure, c'est vrai, hein, qui mettent un enfant ou un adolescent plus du côté de la victime. Mais en tout cas, il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tel type de jeune va devenir un harceleur ou au contraire va devenir une victime.
Mais il n'y a, pas des profils familiaux, pardon, de...
Alors,
oui, est-ce que si on a grandi dans une famille qui peut-être, par exemple, banalise la violence?
Oui.
Ou la violence verbale.
C'est vrai que ça peut faire partie des origines possibles des deux destins du harcèlement, c'est-à-dire soit côté victime, soit côté violence, violenteur. C'est-à-dire que si on est habitué à la violence, bon, on laisse faire. Ou si on est habitué à ce mode de communication, on peut devenir intimidatrice ou intimidateur. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule cause. Mmh. Il y a énormément de causes possibles. Et alors, la deuxième chose, c'est que ce sont des phénomènes de groupe. Le cas d'un harcèlement avec une seule personne, c'est rarissime. Ça existe, hein, mais c'est rarissime. Sont des phénomènes de groupe. Alors, ça peut être des groupes de 2, 3, 4, 5, 6, mais ça peut être des groupes plus importants. Ça concerne, comme je le disais, autant les garçons que les filles. Et il n'y a pas... Enfin, les approches violentes de traitement du harcèlement ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si on veut sanctionner, punir... Ça ne fait que renforcer la violence, part de la violence, engendrer de l'amertume, une volonté de vengeance, et les violences deviennent de plus en plus raffinées et invisibles.
Oui, voire même de la rébellion, hein, oui. Parfois. Hein.
Alors, on l'a vu la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale a proposé un changement réglementaire qui ferait que c'est donc le harceleur qui serait changé d'établissement scolaire plutôt que la victime. La victime, ça paraît du bon sens et pourtant, ce n'était pas du tout le cas. C'était la victime de harcèlement qui était obligée de changer d'établissement scolaire. Double peine.
Oui, c'est ça, et souvent en cours d'année, quand vraiment ça devenait insupportable, ou au moins à la fin de l'année, pour dire j'ai plus envie de les retrouver l'année prochaine, et souvent ça réglait le problème. Bon, là on se dit, c'est la personne responsable, apparemment, qui va être, on va lui demander de changer d'établissement scolaire, mais c'est un peu démagogique, parce que c'est une façon de dire, ben, le méchant ou la méchante va être puni, mais on ne règle pas le problème de la violence, qui est un problème de terrain, d'un problème de fond, un problème relationnel, un problème émotionnel et un problème éducatif. Donc c'est un peu facile, je trouve, même si ça peut sembler comme ça une très bonne idée, hein, et on verra si ça porte ses fruits, mais il y a du travail à faire beaucoup plus
mais
en profondeur.
Est-ce que vous voulez dire qu'en fait, il faudrait ni exfiltrer le harceleur, ni la victime, en fait, et qu'il faudrait les maintenir dans le même établissement scolaire. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, idéalement, oui, parce que le harcèlement, je m'en suis rendu compte, c'est une non-relation, c'est-à-dire c'est une relation avortée. On n'arrive pas à être en relation avec quelqu'un du fait d'une différence réelle ou supposée, ou du fait de toutes sortes de raisons. Et comme on n'arrive pas à être en relation avec cette personne, on l'attaque. C'est une relation... comme indirect, c'est comme une espèce d'ersatz de succès d'années de relations. Donc moi, mon point de vue, c'est aidons les enfants, les préadolescents et les adolescents à créer des relations entre eux. Tu as un problème avec telle personne, qu'est-ce qui fait que que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous parler, à même peut-être à être en désaccord. Mais...
Oui, mais vous parlez vous-même d'une certaine forme de haine.
La haine est aveugle.
Vous dites que c'est une forme de haine.
Ça peut devenir, dans certains cas, ça peut devenir une forme de haine, justement parce qu'on est dans l'abstraction. La haine, elle est toujours dans l'abstraction. L'autre n'est pas réel. On ne peut pas haïr quelqu'un qu'on connaît. Et c'est parce qu'il n'y a pas de relation qu'on peut en arriver à haïr quelqu'un et à lui faire les pires crasses. Or, le fait de créer de la relation entre des personnes qui sont peut-être dissemblables ou qui n'arrivent pas à communiquer entre elles, ça leur permettrait de développer de l'empathie mutuelle et de la compréhension, quitte à ne pas être d'accord, à ne pas avoir les mêmes goûts, à avoir des points de vue différents et à ne pas forcément passer tout leur temps ensemble, mais savoir qu'il y a des moments de rencontre et des possibilités de rencontre.
D'où l'importance, en tant que parent, pour tous les parents qui nous écoutent, dans le projet éducatif, dans votre manière d'éduquer vos enfants, de les accompagner, de les ouvrir en fait à la différence, les ouvrir au monde, l'importance vraiment de mettre ça, d'en parler, d'installer des instants comme ça. Je me souviens à Villiers-le-Bel, dans le collège où étaient mes enfants, j'avais participé en fait en tant que parent bénévole à un projet d'ailleurs maintenant qui se développe dans d'autres collèges qui s'appelle la médiation par les pairs. Cette médiation par les pairs, donc il y a une mallette avec toutes les compétences, avec une liste de compétences, un inventaire des compétences psychosociales à développer pour les enfants. Et ces personnes, c'est comme des ambassadeurs, ces ados, pré-ados et ados, vont être en fait comme des ambassadeurs et pouvoir gérer les situations de conflit, les situations d'incompréhension au sein, soit dans la classe, soit dans la cour de récréation, là où se passent aussi énormément de choses. Et donc que ces enfants puissent déjà, donc il y a déjà des habiletés, ces enfants-là ont déjà une prédisposition naturelle à communiquer, à avoir l'esprit ouvert, à vouloir analyser, à être dans l'empathie. Et de pouvoir accompagner les autres qui n'ont pas, j'ai envie de dire, cette chance, même s'ils l'ont, mais en fait elle n'a pas été développée, soit par le système éducatif, soit par les parents, ou par l'environnement, et de pouvoir vraiment travailler ça. Moi, je rêverais de pouvoir continuer d'être... parce que, comme le dit le ministre, enlever... Pour moi, c'est une démarche qui est répressive, qui est punitive, qui est
stérile. Sauf qu'avant, c'était la victime qui devait, qui devait partir.
Mais pourquoi est-ce qu'on disait la victime qui doit partir? Pourquoi? Parce qu'il y a protéger. Il faut protéger la victime. Elle a subi déjà énormément de choses. Donc, il faut qu'on mette un dispositif tout autour, mais qui finalement ne l'aide pas. Pourquoi? Parce que ça la maintient dans cette victime. Elle reste dedans.
Et souvent, elle se retrouvait dans un nouvel établissement où
elle connaît
personne. Ça se reproduisait peut-être.
Exactement. Et donc, alors de lui transmettre, déjà lui dire qu'elle n'est pas, pour pas qu'elle traîne avec elle cette honte, de dire tu n'es pas coupable et tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, c'est, voilà, il y a un problème, c'est sociétal. C'est aussi parce que ces situations de harcèlement, on les trouve dans les collèges, dans les écoles, mais on les trouve aussi en entreprise, chez les adultes, chez partout. On va exclure, parce qu'elle fait pas des commérages comme nous devant le café. Elle va pas parler de l'autre collègue qui a je sais pas quoi. Et donc tout de suite on va commencer à la stigmatiser et à la mettre de côté. Donc c'est des situations qui arrivent malheureusement, mais qu'il faut vraiment qu'on les règle. Et moi je pense que le livre de Saverio, il nous donne les outils pour pouvoir mettre ça en place. J'ai vraiment le ressenti que c'est, on l'aborde sous un autre paradigme. C'est vraiment ça.
Alors l'idée qui est pas vieille, hein, de dire de toute façon c'est important, c'est bon pour le développement de l'enfant, ça lui développe les anticorps, il apprendra à se défendre tout seul.
Oui. Dans une certaine mesure, dans une petite mesure, effectivement, si on est confronté aux rudesses de l'existence, à des conflits, à des désaccords, on apprend.
Ça a été longtemps comme ça.
Voilà. Et puis si ça reste non dangereux et que ça s'installe pas dans le temps, pourquoi pas. Mais le harcèlement, le problème, c'est que c'est un grand nombre de personnes contre une seule, et ça dure tellement longtemps que l'enfant ou le jeune qui est harcelé, il est épuisé, finalement il n'a pas son mot à dire dans l'histoire, il n'a pas la possibilité de développer ses propres capacités à se défendre, bon, à moins d'être en thérapie et d'apprendre comment riposter à ces violenteurs.
Une question que vous posez, c'est quelle est la place des adultes dans ces histoires de harcèlement, et quelle est la bonne distance des adultes, jusqu'où ils doivent intervenir ou pas?
Alors, jusqu'à présent, les adultes sont très absents. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de harcèlement au collège, au lycée, et notamment au collège. C'est-à-dire comme si les jeunes devaient se débrouiller tout seuls. Or, à mon avis, déjà quand on est adulte, si on a un conflit, on peut demander une médiation. C'est prévu aussi par la loi. Pourquoi laisser des préadolescents et des adolescents qui n'ont pas notre maturité, qui n'ont pas un cerveau rationnel développé comme le nôtre, puisque le cerveau rationnel se développe jusqu'à 25 ans au moins, qui n'ont pas l'expérience de la vie, pourquoi les laisser seuls face à ces violences sans intervenir, en les aidant justement par des questions de médiation? Donc je pense que les adultes ont besoin de beaucoup plus être attentifs, à l'écoute, et d'intervenir, non pas par des sanctions, non pas de façon autoritaire, mais dans une bienveillance, une empathie, une proximité. En fait, ça demanderait plus de temps aux adultes, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas envie, mais une proximité de terrain, être avec, comme des éducateurs de terrain, finalement.
Oui. On parle du harcèlement jusqu'à 10h. À votre santé, sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, le nouveau livre de notre invité, Saverio Tomasella, s'appelle « Plus jamais harceler, en finir avec la maltraitance entre adolescents » chez Vuibert, avec la préface du grand Serge Marquis. Spéciale dédicace, s'il nous écoute. Mais vous êtes très nombreux à nous écouter depuis les passages de Serge Marquis au Québec. Donc voilà, vous avez testé un certain nombre de méthodes. Alors, il y a des Suédois, enfin, des méthodes alors que vous avez expérimentées, hein, pour le coup, qui fonctionnent. Alors, la première méthode s'appelle...
Alors, la méthode qui fonctionne le plus s'appelle la méthode de la préoccupation partagée. C'est effectivement une méthode qui nous vient des pays scandinaves, qui sont très en avance sur nous. Et par exemple, au Danemark, les enfants ont à l'école primaire des cours d'empathie, chaque semaine, pendant toute leur école primaire. Et donc, forcément, ça aide ces enfants-là à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Cette méthode de la préoccupation partagée, elle est très intéressante parce que d'abord, elle est non blâmante. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à blâmer, à sanctionner les instigateurs des violences. Dès qu'on a connaissance, donc il y a une cellule qui existe dans les établissements scolaires. L'Académie de Versailles est une académie pilote en France dans le domaine de la mise en place de cette méthode.
MPP.
Voilà, de la MPP. Et dès qu'on a connaissance d'un harcèlement, on invite l'enfant, l'adolescent qui est victime de ces violences à venir parler avec une personne de cette cellule pour un entretien qui est très long, pour laisser tout le temps possible à ce jeune pour exprimer ce qu'il est en train de vivre et essayer d'avoir des détails sur la situation, les noms des personnes qui l'embêtent, mais surtout comment lui vit cette situation et comment il pourrait essayer d'en sortir. Un deuxième adulte de la cellule, donc pas le même, à la suite de cet entretien, va recevoir très brièvement les harceleuses ou les harceleurs et quelques témoins en disant « je suis très préoccupé pour Arnaud ou Alice, hein, on va dire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Vraiment, je suis inquiet pour elle ou pour lui et j'ai besoin que vous fassiez attention à ce qui lui arrive et on s'en reparlera la semaine prochaine. » Il y a certains jeunes qui vont dire « ah oui, effectivement, ça ne se passe pas très bien pour elle ou pour lui. » Mais le plus souvent, lors du premier entretien, ils vont dire « ah non, j'ai pas fait attention. Alors, à partir de maintenant, est-ce que vous pouvez vraiment faire très attention à Alice ou à Arnaud ? Et on en reparle la semaine prochaine. » La semaine d'après, on reconvoque donc les mêmes personnes et en leur demandant « est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe ?» Et souvent, bien sûr, ça s'est calmé. Parce que non seulement ils savent que les violences sont connues, mais le fait qu'un adulte dise, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les adultes ne sont pas assez présents, le fait qu'un adulte dise « je suis très préoccupé par ce qu'est en train de vivre Alice ou Arnaud », enfin peu importe le nom de la personne, c'est comme si ça réveillait en eux la possibilité de cette intelligence sensible qu'est l'empathie en se disant « ah oui, mais finalement c'est pas facile pour elle ou pour lui ». Et la semaine après, ils viennent parfois avec des solutions. « Alors on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Et généralement, en quelques semaines, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on leur a jamais dit « tu vas arrêter d'harceler telle personne ».
Ça ne s'est jamais prononcé. Non. On est un peu dans le non-dit quand même. On est
Oui, parce que c'est une méthode qui évite de les attaquer frontalement pour éviter de les braquer et que ça se renforce. C'est au contraire éveiller la sollicitude, le fait de se dire le soin de l'autre en disant « bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ?» Souvent, en quelques semaines, c'est réglé. Si jamais ça n'est pas le cas, à ce moment-là, on passe le relais au chef d'établissement en disant « voilà, on a essayé entre telle et telle personne à arranger la situation, maintenant c'est à vous de faire ce qui vous revient ». Mais en tout cas, dans les établissements où c'est mis en place, on prend le temps de ces quelques semaines pour régler le problème et dans 82%, c'est les dernières statistiques concernant la France, en Australie et en Grande-Bretagne c'est même plus élevé, dans 82 à 83% des cas, les problèmes sont résolus d'eux-mêmes, simplement en ayant parlé aux jeunes.
Tout simplement.
Ça coûte pas cher en plus. Hein.
Et ça coûte pas cher.
Pour le coup. Une autre approche qui nous vient de Grande-Bretagne, la No Blame Approach. C'est pareil, c'est un peu selon le même principe.
C'est
quand
un
même.
Peu selon le ouais. même principe, sauf que là, on va à un moment les faire se parler Donc dans la méthode,
on les confronte.
Mm-hmm. En tout cas, on les met face les uns aux autres pour faire en sorte qu'ils trouvent un terrain d'entente. Mm-hmm. Donc ça, c'est la dernière phase, mais le début ressemble beaucoup à la méthode de la préoccupation partagée.
Mm-hmm. Le problème et la solution.
Oui.
Et puis il y a une autre méthode, la méthode Farsta.
Alors la méthode Farsta, elle est un peu plus directe. Parce que là, on va aller voir les violenteurs en leur disant, on sait que tu fais ça à telle personne et tu vas arrêter, on te surveille. Donc, il n'y a pas de punition, mais on fait savoir aux violenteurs qu'on connaît leurs méfaits et qu'on ne les laissera pas faire. Mmh. Donc, les résultats sont un peu moins bons, justement du fait de cette confrontation directe qui, à mon avis, lorsque les jeunes ont entre 10 et 16 ans, ça ne marche pas très très bien d'y aller frontalement avec eux. Mmh. Mais il y a surtout cette méthode, la somatic experiencing, qui elle est utilisée au Canada, aux États-Unis, en Israël, qui est de recevoir de façon thérapeutique la personne harcelée ou la personne, ou les violenteurs, et justement de les aider à exprimer leurs émotions, notamment la peur et la colère ou la honte, leurs émotions difficiles, et à trouver en eux des ressources qui vont faire que la relation qui semblait impossible va le face à face. Qui semblait impossible entre les deux personnes, va devenir possible parce qu'ils sont apaisés par rapport à leurs émotions. Il n'y a plus cet enjeu émotionnel qui les dépasse et qui fait qu'ils ne savaient plus comment faire, sauf dans l'affrontement ou l'attaque.
Mmh. Alors vous avez été, vous-même, racontez-vous dans le livre, dans vos années collège, été harcelé, et vous avez mis beaucoup, beaucoup de temps avant de le dire, donc vous vous êtes retrouvé dans cet engrenage finalement. Vous trouviez ça normal d'être harcelé? Je ne sais pas, mais
oui, non, mais qu'est-ce
que vous ressentiez? Parce que vous dites que souvent, les victimes se disent que finalement, si je suis harcelé, c'est parce que je le mérite d'une certaine façon.
Voilà, donc je ne dirais pas que je trouvais ça normal, mais je croyais que c'était justifié parce que j'étais un garçon apparemment moins viril que les autres, même si j'étais très sportif et que j'adorais jouer au ballon, etc. Mais c'est vrai que dans mon comportement, j'étais plus artiste, plus sensible, et que je me disais, c'est à cause de ça que les autres garçons m'en veulent, qu'ils se moquent de moi et qu'ils me harcèlent. Et donc, moi, j'ai demandé à changer de zone scolaire, parce que c'était entre le collège et le lycée. Je voulais plus du tout être avec les mêmes personnes. Donc, je suis allé dans un lycée qui ne correspondait pas à celui où allaient les autres garçons qui me faisaient du mal. Mais c'est vrai que j'ai supporté ça en croyant que ça venait de moi.
Mmh. Tu voulais supporter pendant combien d'années?
3-4 ans. Alors, avec un d'entre eux, en troisième, donc la dernière année, j'ai réussi à dire stop. Physiquement, en lui disant ça suffit, en le poussant, en lui disant ça suffit. Les autres, c'était une bande, hein, donc c'était beaucoup plus difficile. Et eux, ils ont continué jusqu'à la fin.
Mmh. Mais vous avez quand même, cette notion de qu'il fallait résister.
Oui, mais je ne savais pas comment. Parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression de leur tenir tête. Mais je n'arrivais pas à les faire arrêter. Enfin, je ne savais pas comment faire en sorte qu'ils arrêtent de m'embêter.
Pour donner une image, hein, des formes que le harcèlement peut recouvrir, hein, et il y en a beaucoup, vous prenez l'exemple d'un petit garçon qui se fait cracher dans le dos pendant toute la journée. Un truc incroyable.
Oui, Alban, c'est un ami qui a vécu ça dans un collège de la région parisienne. C'était un collège privé, UP, hein, parce que le harcèlement existe dans tous les milieux sociaux, c'est important de bien le dire, même chez les personnes très riches et très fortunées, enfin, qui ont beaucoup apparemment de chances matérielles, simplement parce qu'il, lui, n'était pas de leur milieu social, et il a été battu, moqué, humilié, dégradé, jusqu'à ce qu'un jour il n'en puisse plus, et il l'a dit à ses parents. Ils l'ont changé de lycée, et il est allé dans le collège public, et ça s'est beaucoup mieux passé.
Il y a une étude, hein, à qui le disent les enfants victimes de harcèlement, à qui ils le disent en priorité?
Alors, ils vont le dire à un ami, leurs parents, un frère ou une sœur, et parfois un prof.
Hmm. Et on sait combien de temps après ils font la démarche?
Le plus souvent, c'est très engagé. Il y a quelques rares enfants qui ont une relation très proche avec leurs parents ou un des parents et qui vont réussir à le dire dès que ça commence. Enfin, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et pour les parents qui nous écoutent ce matin, parce que beaucoup, les adultes disent toujours, mais nous, on n'a rien vu. Mais vous, vous dites que non, ça se voit depuis le début.
Bon, on le remarque au comportement du jeune préado, du jeune enfant. Parce que même maintenant, on parle des ados et des préados, mais ça commence aussi même à l'école élémentaire, hein, ou en classe de CM2, de CM1. Et moi, je dis souvent aux parents, restez attentifs à sa qualité de sommeil, comment est-ce qu'il dort, est-ce qu'il ne fait pas de cauchemar, comment est-ce qu'il mange, les comportements de repli sur lui-même. Si c'est un enfant qui était plutôt joyeux et qui exprime et qui est plutôt dans l'extraversion, on va dire un petit peu comme ça, mais et qui du coup redevient un peu solitaire et une espèce de comment je dis, pas de timidité, c'est pas de timidité, mais une espèce de, il s'éteint en fait. Il commence à s'éteindre là. Il faut vraiment, alors faut pas y aller. Les parents qui nous écoutent, faire le policier quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est celui-là? C'est celle-là? Est-ce qu'on te fait quelque chose? On t'a touché? On t'a fait ci? Et souvent les parents, parce qu'ils sont en réaction, donc veulent vraiment aider leur enfant, et c'est pas la meilleure manière. C'est vraiment d'installer, on le dit souvent ici dans cette émission, d'où l'importance d'installer ces temps d'échange en famille, où on va s'asseoir, comment s'est passée ta semaine, comment ça a été pour toi, ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, tes prises d'initiative, et comment ça se passe dans la classe. Voilà, et vraiment venir d'une manière indirecte et pas frontale, comme l'a dit Saverio, parce que justement, y a cette dimension aussi de j'ai honte de moi parce que j'ai pas su me défendre et je sais pas comment faire, et ils sont là, ils me harcèlent, ils parlent de moi comme ça, ils m'insultent dans le couloir, et moi je suis là, je baisse la tête, la tortue justement, je rentre comme ça, la tête, les épaules voûtées, et j'ai honte aussi de moi. Donc comment faire? Parler de quelque chose qui me rend malade et qui en même temps j'ai honte de moi et honte de ce qui se passe. Comment, imaginez le désespoir de cet enfant. C'est terrible. Donc si nous, en tant que parents, on arrive et qu'on dit « Non mais attends, mais moi je vais aller le voir, je connais ses parents. » Et c'est ce que font la plupart des parents.
Les parents, c'est normal.
Mais ça marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Important de revoir les méthodes qu'on a vues non violentes.
Non violentes, oui.
On a constaté, les études le disent, hein, que le harcèlement a augmenté après le confinement, les épisodes de confinement. Mais est-ce qu'on a une explication à donner à ça?
Oui, il y a des explications qui viennent du fait que déjà le confinement était une violence, et que chaque violence intégrée, intériorisée par les préadolescents et les adolescents, quand on ne les comprend pas, elles rejaillissent d'une façon ou d'une autre, parfois inconsciemment, dans leur lieu de vie, donc les collèges, les lycées, les clubs de sport, les transports en commun, etc. Mais je pense aussi l'absurdité, le manque de sens du monde dans lequel nous vivons, et qui font que les crises économiques, sociales, sanitaires, ces gouvernements qui n'écoutent pas le peuple, je pense que ça ne fait que rajouter à la... une forme de désespoir qui, à l'adolescence, va sortir de façon révoltée, de façon exacerbée, dans une rage, dans une fureur de vivre, qui est mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, qu'est-ce que je vais devenir, et comme une espèce de violence aveugle, mais qui est un cri d'appel au secours. Et ça, je le dis depuis longtemps, parce qu'il y a eu aussi les violences en Corse il y a un an, les jeunes. Et je disais, cette jeunesse est en colère. Ce ne sont pas des jeunes qui font des bêtises. C'est qu'ils nous font passer un message. Et je pense que si on en est uniquement, comme certains gouvernements, dans la sanction, et notamment la sanction brutale et violente, on ne règle absolument pas le problème, on le renforce.
Voilà, des nouvelles propositions que vous faites dans votre livre, Saverio Tomasella, « Plus jamais harcelé ». En finir avec la maltraitance entre adolescents, votre éditeur, c'est Vuibert. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Karima, ça faisait plaisir. Hein. On a attendu. Parfois, c'est bien d'avoir un peu de frustration comme ça. Saverio, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci,
vous revenez
Saverio.
Quand
merci.
Vous voulez,
c'est
Karima.
Partagé.
À mercredi.
À mercredi.
Et très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.